Quel est le point commun entre le château de Boulligneux, le rempart de Saint-Trivier-sur-Moignan, la porte de Villars-les-Dombes ou encore la tour du château de Sandran? C'est vous, Catherine Marion, qui allez nous le dire. Vous êtes, vous suivez la formation guidage à patrimoine des pays de l'Ain et vous allez donc nous parler du Caron savoyard, puisque c'est donc ce fameux point commun. Qu'est-ce que c'est que le Caron savoyard ?
Quand on parle Caron savoyard, on parle brique en réalité, et la brique qui est largement répandue dans le monde entier. Le Caron savoyard, c'est le terme retenu ici en Bresse, en Dombes.
Ouais. Mais ce Caron, on va le retrouver, puisque vous dites savoyard, sur le territoire de Savoie d'hier.
Non, enfin, la Bresse a fait partie de la Savoie dans son histoire, mais en fait, la brique est plus présente en Bresse à proprement parler et en Dombes. Ouais. Bien sûr, on la retrouve partout dans le monde. J'entends les pays du Nord, en Belgique, au Danemark. J'entends la région de Toulouse, la Normandie, le Nord, la région du Nord. Bien sûr, on retrouve beaucoup la brique. Et en fait, ça s'explique parce que la brique, en fait, pourquoi c'est le matériau utilisé dans les régions où il n'y a pas de pierre. En Bourgogne, le problème ne s'est pas posé. Ici, en Bresse, en Dombes, en fait, ce sont des régions humides et du coup, avec une terre glaise. C'est de l'argile, qu'on appelle ici glaise aussi, c'est un terme local également. Et donc c'est avec ce matériau qu'on a fabriqué les briques.
Donc qu'on appelle chez nous les carons savoyards.
Et ça, on peut penser que c'est du franco-provençal en fait. Voilà.
De quand date donc cette technique de fabrication? Et donc je citais le château de Boulligneux ou encore les remparts de Saint-Trivier-sur-Moignan. On ne va pas citer toutes les dates évidemment et tous les lieux, mais non, alors, on commence à trouver les plus anciens carons à quelle période?
Donc en fait, au niveau mondial, en fait, on le retrouve très très loin. En 4500 avant Jésus-Christ, les Égyptiens déjà utilisaient l'argile pour des briques de terre crue. Et donc, un peu plus tard, en 3000 et quelques, ils ont continué. Et là aussi, ça s'explique parce qu'ils avaient le limon du Nil, qui était une terre facile à travailler et qui leur permettait de l'utiliser. Donc, cela date de très, très longtemps. Maintenant, chez nous, l'utilisation, elle est arrivée dans les années 10-11e siècle, en fait. Et elle serait importée d'Italie du Nord.
Donc quelqu'un a porté la technique.
Voilà. Et du coup...
Elle a été utilisée peut-être jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, mais elle a peut-être un avenir, vous nous le direz plus tard. Mais...
Voilà, donc je pense qu'en fait ensuite ça s'est perdu dans les années 1950 avec l'arrivée du mortier, du ciment, enfin des nouveaux matériaux bien sûr.
Alors quelle est justement cette technique des carons qui nous vient à l'origine d'Italie, Catherine Marion?
Bien du coup, par le fait, la fabrication du caron, elle se fait en général sur place, c'est-à-dire qu'on va là où est la terre, on extrait la terre, en général en hiver. Cette terre, elle est piétinée par des appareils, mais le plus souvent et en tout cas au début par des bœufs, des chevaux, etc. Elle est malaxée, on la laisse reposer jusqu'au printemps et là on va la mettre dans des briques, dans des petits moules de la taille des futures briques en fait,
des petits moules en bois
effectivement. On verse donc cette matière un petit peu homogène et légèrement plastique. Il faut qu'elle soit suffisamment humide et suffisamment homogène pour être versée dans ces bacs. On va araser ce qui dépasse avec une corde qui est reliée à un arc, en fait. Ça fait que l'arête sera très saillante.
Un genre de racloir.
Exactement, tout à fait. Et ces briques vont être reposées sous un hangar ou une briqueterie, mais qu'on appellera ici la caronnière. La caronnière, c'est un bâtiment qui a plus ou moins toujours la même allure, un bâtiment qui n'a pas de mur extérieur, mais simplement une toiture qui descend assez bas pour protéger des intempéries, ouvert avec simplement
les
quatre côtés.
Pour que le vent passe et sèche.
Exactement. Et du coup, alors bien sûr, il y a également le four sous cette caronnière. Et du coup, ces briques, on va les laisser sécher très longtemps. Au départ, il va falloir les retourner chaque jour pour que le séchage soit un peu homogène. Il ne faut pas que le séchage aille trop vite. Il ne faut pas qu'elles soient exposées au soleil, sinon tout cela peut créer des fissures.
Et c'est embêtant quand on construit des remparts.
Et c'est embêtant quand on construit des remparts, c'est clair. Ouais. Et pour finir, on va les faire cuire dans le four qui est présent sous cette caronnière. Et là encore, donc c'est tout un savoir-faire. Il faut alimenter un feu, mais il faut que la température elle monte entre 850 à 1200 degrés. Il faut que le briquetier maîtrise bien les températures pour que là encore, les briques qui sont posées, je le rappelle, en tas sous ce hangar, donc pour que la cuisson soit homogène. Donc c'est vraiment un savoir-faire et donc cette cuisson peut durer plusieurs jours, bien sûr.
Alors donc c'est, oui, comme vous le dites, un savoir-faire, une technique vraiment très précise.
Très précis. Et du coup, c'est sûr que le travail de la brique, la fabrication de la brique, demande de la main-d'œuvre et du savoir-faire. Par contre, ensuite, lorsqu'elles vont être cuites pour terminer les étapes de la fabrication, en fait, on va devoir les trier une fois qu'elles auront refroidi. Et c'est là que donc elles vont être triées en fonction de la couleur qu'elles auront pris, mais aussi selon qu'elles se sont beaucoup rétractées ou
un
pas.
Un peu leur forme, leur dimension.
Voilà, elles vont être plus ou moins rétractées. Donc on va garder les briques de premier choix pour les murs de parement. Donc ce seront les plus belles, les plus rouges en fait. Et celles, donc pour s'assurer qu'elles ne soient pas fendues, en fait on les tape légèrement l'une contre l'autre. Et si le bruit est clair, c'est qu'elles sont parfaites en fait. Et donc, celles qui seront un petit peu moins cuites, on va les mettre à l'intérieur, qu'elles ne subissent pas les intempéries. Et pour finir, celles qui seront trop cuites, en fait, il s'agit d'une céramique, donc elles vont être vernissées, elles vont être surcuites. On les appelle des crapauds, un joli nom. Et celles-là, on va s'en servir pour des fondations ou des choses comme ça.
Donc, vous nous dites, la terre est ramassée en hiver.
En hiver.
Et on peut dire qu'un an après, on a les briques.
Un peu plus tôt, à la fin de l'été, en fait, parce qu'elles vont être moulées, séchées et cuites à la belle saison, on va dire.
Ouais, donc, c'était vraiment un travail de longue haleine.
De longue haleine, de 10 à 20 000 briques par fournée, parfois 3 fournées par an pour le briquetier. Un gros travail, en fait.
Et c'était, vous avez parlé du four, c'était vraiment un four particulier ou c'est on mettait le feu sur ces briques
Oui, je pense que non, c'était, oui, il était situé sous la caronnière, mais
c'était pas four. Les fours qu'on imagine aujourd'hui.
Exactement, ouais. Tout à fait. Ouais. Par contre, pour revenir sur la caronnière, il est intéressant de noter qu'en fait, dans beaucoup de. Sur la carte, vous allez trouver de nombreux lieux-dits. Ouais. Qui vont s'appeler la caronnière. Ce qui semble vouloir dire que sur ces emplacements, il y a eu autrefois une briqueterie.
Les propriétés de cette brique, donc de ce caron savoyard, c'est solide. Hein, si on dit qu'on voit encore du caron au château de Boulligneux ou à la tour du château de Sandran, ce sont des
très anciennes constructions. C'est ça, les briques ont une résistance considérable. D'autant qu'à l'époque, en fait, on avait un peu peur des... On tenait à cette résistance et du coup, on faisait souvent des murs de 20 cm de large, ce qui fait que le mur n'allait pas s'effondrer et ça sert bien aujourd'hui. Il faut ajouter qu'en fait, elle est poreuse, cette brique. C'est-à-dire qu'elle est capable d'absorber l'eau et de la restituer.
Mais sans s'affaiblir.
Alors, sans s'affaiblir, sauf si le gel vient venir juste après la pluie. Oui. Donc là, ça serait
C'est fichu.
Mais sinon, c'est une capacité, parce que du coup, il y a beaucoup d'inertie et ça isole bien, la qualité d'isolant. Elle a également des qualités d'isolant acoustique, qui l'a intéressé peut-être moins à l'époque, mais qui est une qualité qui nous intéresse, nous, aujourd'hui.
Oui, notamment à RCF, même si les locaux ne sont pas en caron.
C'est ça. Et surtout, elle était facile à utiliser, c'est-à-dire qu'elle a un caractère modulaire de la brique, qui fait qu'il n'était pas utile d'être un grand professionnel pour les monter, en fait. C'était un côté modulaire.
Un peu comme des Legos.
Sauf
qu'il fallait quand même les
articuler.
Les articuler, puis les fixer entre eux.
C'est ça. Alors, en fait, il y avait un système, on appelle ça, on les positionnait en carreaux et en boutisses. C'est-à-dire qu'on va les positionner pour plus de solidité, une brique dans le sens de la longueur et l'autre dans le sens de la largeur, donc la boutisse et le carreau. Et donc, c'était là la technique, en fait.
Pas besoin de colle.
Non.
Voilà, donc c'est une technique utilisée pendant de nombreux siècles. Vous disiez qu'il a dû s'éteindre vers 1950 à peu près.
À peu près.
Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle revienne, hein? Est-ce que...
Bien, alors, je pense que donc au Grenelle de l'environnement, la brique a dû être évoquée en réalité, parce qu'en fait, elle a de nombreuses vertus. Donc pour toutes ces vertus dont je vous parlais, sa grande résistance, parce que tous ces bâtis qui datent de si longtemps et qui ont bien tenu le coup. Et puis maintenant, on lui trouve donc ses vertus acoustiques, ses vertus résistance, ses capacités peut-être. D'inertie qui fait qu'elle maintient une température dans d'isolant. Et aussi, on va la trouver esthétique aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que ça devient un matériau à la mode, en fait. Et j'ai lu cette semaine... qu'en fait il y avait même des lofts new-yorkais donc où on allait mettre des murs en briques. Et il est vrai qu'aussi aujourd'hui on voit des cuisines très souvent
Avec le retour de la brique.
Avec le retour de la brique dans la décoration intérieure.
Matériau noble.
C'est ça.
Oui. Bon, et puis en tout cas c'est aussi la maison qui a résisté au grand loup.
Exactement.
Dans l'histoire des petits cochons.
Donc là j'ai trouvé cette note sympathique. En fait, dans l'histoire des petits cochons, on n'oublie pas que la première maison était en paille, la deuxième en bois, mais en fait, le souffle du loup les a effondré chacune, que la maison en briques, eh bien, elle a résisté. Voilà.
Alors, peut-être demain, des nouvelles maisons en caron savoyard, donc des maisons rouges, hein, rouges, rosées, suivant la cuisson, en fait.
C'est ça, pourquoi pas, on verra. Mais je pense que, sérieusement, il y a des architectes qui réfléchissent aujourd'hui.
Merci pour toutes vos explications, Catherine Marion. Vous en prie.